Voilà, gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu. Et nous poursuivons sur ce thème de la louange et l'adoration. On a parlé il y a quelque temps de l'adoration céleste, pour montrer que dans le ciel, les anges louent, adorent le Seigneur. On a vu combien la louange dans le ciel est importante. Et Dieu est environné, en fait, constamment de louanges, d'adoration, que ce soit les anges... Tous ces êtres célestes l'acclament. Alors j'aimerais parler ce soir de l'adoration terrestre. L'adoration terrestre, dès qu'il y a eu des hommes sur la terre, il y a eu cette volonté, ce désir d'adorer. Et on va se rendre compte que l'adoration a parfois été bonne, mais parfois elle a été mauvaise. Et l'homme a toujours cherché à exprimer ce besoin qui est au fond de son cœur d'adorer. Alors on va réfléchir sur l'adoration et sur le besoin, premier point, donc l'adoration terrestre, le besoin d'adorer. On va lire un premier texte dans Ecclésias chapitre 3 et au verset 11. Le besoin d'adorer. Et on se rend compte qu'en chaque être humain, il y a une notion d'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Première considération, donc, Ecclésias 3, 11, pardon. Il a fait toutes choses belles en son temps, il a même mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tout ce que Dieu fait est parfait. Quand Dieu a créé la terre et le ciel, l'homme et la femme, Adam et Ève, il n'y avait rien de tordu, tout était bon. Et Dieu a dit c'est même très bon, tout était parfait. C'est pour ça que Adam et Ève, ils se disputaient jamais. Ils étaient toujours d'accord. Et c'est toujours Adam qui avait le dernier mot à la maison. Oui chérie. Je pense que les sœurs seront d'accord. Alors, il faut dire que Ève, c'était une femme parfaite. Il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a eu qu'une, c'est Ève. Et puis elle a chuté. Alors, Ève n'avait aucun défaut. Et Adam la comprenait toujours sans difficulté. Il y avait une harmonie. Il y avait une paix. Et puis, Adam soutenait sa femme et il l'honorait. Enfin, comme tout ce que la Bible prescrit. Ève, aussi, par rapport à Adam, eh bien, c'était un homme parfait, donc elle n'avait pas le moindre petit défaut à trouver en lui. C'était un homme sans péché, parfait en amour, il aimait vraiment sa femme, et puis il était prévenant, doux, attentionné, bref, la perle rare que toutes les femmes cherchent, mais... Il n'y en a plus. Il n'y avait que Adam qui a été parfait. Après, tous les autres qui sont arrivés derrière, ils étaient contaminés par le péché. Alors, Adam et Ève ont connu un temps vraiment extraordinaire. Et puis, vous savez ce qui s'est passé. Ève a été tentée, ils ont chuté tous les deux. Et rapidement, au sein du couple, premier couple, il y a eu des disputes, des désaccords, des dissensions, des dénigrements, puisque... Vis-à-vis de Dieu, Adam a dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi, etc. Et ça a commencé à mal tourner. Donc on se rend compte que le péché a affecté les relations humaines. Cependant, une chose est restée, qui était déjà en Adam et Ève, c'est la pensée de l'éternité. Ça, c'est resté malgré le péché. Et on le retrouve ici dans Ecclésiaste 3. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'Adam et Ève avaient été créés pour vivre toujours en harmonie, dans la paix. Il y avait cette volonté de Dieu qui profite vraiment du jardin. Et il y avait tout pour qu'ils puissent vivre et s'épanouir. Mais voilà, avec le péché, ils n'ont plus eu accès à l'arbre de la vie. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et ils ont connu la mort physique. Alors, c'est vrai que Adam et Ève sont morts physiquement, mais néanmoins dans leur cœur, il y avait cette pensée que leur âme allait vivre après la mort. Et ça reste dans le cœur des hommes parce que c'est transmis de génération en génération. Dans tous les cœurs humains, il y a cette croyance, enfin, ce désir ou cette pensée qu'il va se passer quelque chose après la mort. Peut-être certains ne savent pas trop l'expliquer. La Bible nous montre que nous avons été créés corps, âme et esprit, et que si le corps retourne à la poussière, ça n'est que l'enveloppe, l'esprit, lui, retourne à Dieu. Dieu nous a créés comme cela, avec un esprit invisible, mais immortel. Ce qui est visible est passager, ce qui est invisible est immortel. Dieu, nous ne le voyons pas, c'est invisible, mais c'est immortel. Le péché, donc, n'a pas détruit cette pensée de l'éternité qui demeure dans les hommes. Et c'est pour ça que beaucoup de peuples ont l'intuition, l'intuition, que tout ne s'arrête pas à la mort. Voilà pourquoi les hommes ont cherché, se sont tournés vers le ciel, vers Dieu, mais aussi ils ont créé beaucoup de religions. Ils se sont tournés vers le ciel en cherchant Dieu, un petit peu comme un enfant, un fils adopté, va tout d'un coup se mettre à chercher ses parents, son père naturel, celui qui l'a conçu. Et c'est vrai que chez les enfants nés sous X, il y a à un moment donné un désir de rechercher le Père qui nous a conçus. Hein. Mais c'est vrai pour les êtres humains parce qu'on a été créés par Dieu. Et à un moment donné, il y a en nous cette pensée de l'éternité qui nous fait pousser à chercher le Père. Je dirais le Père spirituel, le Père céleste. Alors voilà pourquoi les hommes ont cherché, ils ont cherché. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 religions qui existent dans le monde. Et tout ça, c'est des tentatives des hommes pour chercher le Père, chercher Dieu. Et l'Évangile, c'est l'inverse. L'Évangile, ça nous parle d'un Dieu qui cherche les hommes pour les attirer à lui, pour les ramener vers lui. Ça nous parle d'une rencontre du Sauveur avec l'humanité. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. Regardez l'histoire de la brebis perdue. C'est bien le berger qui va chercher la centième qui s'est égarée. Dieu est celui qui cherche. Dans le monde, les gens cherchent Dieu, mais dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui cherche les hommes pour les ramener dans les voies du Seigneur. Donc l'évangile, qu'est-ce que c'est? Ben, ça relate toute l'histoire d'amour de Dieu pour les hommes. C'est ça, toute la parole de Dieu. Alors, dans notre besoin d'adorer, donc on a dit, c'est le premier point, le besoin d'adorer, on a vu premièrement une notion d'éternité dans tous les hommes. Deuxièmement, nous avons été créés pour un but. Proverbe. Chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit: L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Bah, Dieu a tout fait pour un but, même nous. Nous, on a été fait pour un but. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Oh, un jour où il ne savait pas quoi faire, allez, tiens, je vais créer ça, puis on va voir ce que ça va faire. Non. Il avait un plan. Et la Bible nous parle de ce plan. Je vous donne une image. Quand un ingénieur fabrique une machine, il a un but. Et avant de concevoir cette machine, il faut qu'il fasse un plan pour la créer. Mais s'il crée la machine, ce n'est pas pour créer une machine. C'est pour que cette machine, elle soit utile à quelque chose. Hein, on ne fait pas des choses, on ne crée pas. Par exemple, on va essayer d'améliorer. Autrefois, dans l'agriculture, on utilisait les bœufs, là, ça n'allait pas très vite avec des charrues, on coupait avec la faucille, enfin c'était vraiment très long. Alors des gens ont réfléchi, ils ont réfléchi, ils ont conçu des machines, des ingénieurs. Ils ont fait des plans et ils ont mis en application, et donc il y a eu des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, et c'était le but, c'était d'améliorer la rentabilité, de faire plus vite le même travail. C'était le but. Et Dieu, nous savons qu'il est notre créateur, mais pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Est-ce que nous le savons? Quel est le but de Dieu? On le voit ici. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, s'il nous a créés, c'est pour une raison bien particulière. C'est pour que nous entrions dans quelque chose Comment savoir le but de Dieu? Comment le découvrir? Ben, il y a un moyen de le connaître. Le but de Dieu, c'est dans la parole qui nous est révélée, parce que on le dit parfois, c'est que la Bible, c'est un petit peu comme le manuel. Vous savez que quand on achète un appareil haute technologie, il y a le manuel d'utilisation, le manuel pour savoir comment ça marche. Eh bien, c'est un petit peu le manuel du fabricant qui nous explique quel est le but de Dieu pour nous. Alors, il y a bien des gens qui ne se soucient pas de la notice. Hein, ils la jettent de côté, puis ils s'aventurent tout seuls à appuyer sur tous les boutons. Et parfois, ça fait des catastrophes. Hein, parce qu'on n'a pas su faire marcher la machine. Surtout dans les machines très perfectionnées, il ne faut pas faire n'importe quoi. Eh bien, nous sommes des êtres encore plus perfectionnés que les machines. Alors, si on ne consulte pas la notice, ben voilà, les gens qui ne se soucient pas de la parole de Dieu, ben ils se retrouvent avec des vies cassées, brisées, détruites. Alors la parole de Dieu va nous expliquer quelle est notre raison de vivre. Alors ça c'est donc un troisième élément qu'on trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Voyons voir. Colossiens chapitre 1. Verset 16. Nous avons été créés pour Jésus. Le Fils, alors on commence au verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et pour lui, pour Christ. Alors nous, on est inclus là-dedans, puisque tout ce qui a été créé sur la terre l'a été par Christ et aussi pour Christ. Ben voilà. Bon, il est dit que Jésus a participé à la création de toutes les choses. Invisibles, d'abord, les choses invisibles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les anges. Ce sont les trônes, dignité, domination, autorité qu'on trouve dans la parole. Bien sûr, Jésus lui-même n'a pas été créé. Il est créateur et il est exclu que le créateur soit lui-même un être créé. Donc Jésus existe de toute éternité comme Dieu. Aucun ange d'ailleurs, même le plus élevé de la création, n'a le pouvoir de créer quoi que ce soit. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Et donc si Christ a créé, comme il est dit que c'est l'agent créateur, hein, c'est par sa parole que toute chose a été créée, donc c'est qu'il a un statut supérieur aux anges. Il y a un abîme entre le Créateur et ses créatures. Jésus a participé aux choses invisibles. Jésus a participé à la création des choses visibles. Alors, qu'est-ce que les choses visibles? Eh bien, c'est l'univers, les cieux, la terre, les plantes, les animaux, l'être humain, tout ce qui se voit. Mais rappelez-vous toujours ceci, c'est que ce qui se voit n'a pas été créé en premier. Avant même qu'il existe l'univers, existaient d'abord les choses invisibles, les anges, les autorités. Donc tout ce qui est invisible précède ce qui est visible, et tout ce qui est invisible est éternel, mais tout ce qui est créé visible disparaîtra. Un jour aussi, la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Et donc il y aura de nouvelles créations, ce sera encore des choses différentes, glorieuses, extraordinaires. Mais voilà, tout a été créé par Christ. Il y a des gens qui ne croient que ceux qui voient. Mais dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a bien des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont bien plus réelles que celles que nous voyons, parce qu'elles sont antérieures. Les anges ont assisté à la création de l'univers. Ils nous ont précédés. Alors j'en viens à ce verset qui dit « Tout a été créé par lui et pour lui. » Par lui parce qu'il est l'agent créateur, c'est-à-dire... Si nous existons, c'est par sa parole. Il a créé toute chose par sa parole. Et pour lui, ça c'est le but de la création. Nous avons été créés pour être à Jésus. Pour être en communion avec lui, pour le servir, pour l'adorer. Ça c'est le but de Dieu pour notre vie. Il y a bien des gens qui l'ignorent. Ils vivent en cherchant... à vivre selon leur but. Et c'est quoi leur but? Souvent, les gens, c'est bien manger, bien boire, bien profiter de la vie. Mangeons et buvons, dit la parole, et puis, car demain nous mourrons. Et c'est le grand but de ce monde, c'est profiter de cette pauvre existence parce qu'après, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Bon. En réalité, le but de Dieu pour nous n'est pas matériel en premier, mais il est spirituel. Le but de Dieu, c'est de vivre pour Christ. Et Dieu a placé en chaque être humain une sorte de mécanisme interne qui soupire après lui. Puisqu'on a été créé pour lui, bien, il y a quelque chose en nous qui cherche Dieu. Alors, peut-être on l'a étouffé, pendant des années on l'a mis de côté, on n'a pas écouté cette voix qui nous fait revenir vers le Père, comme on l'a vu tout à l'heure, cette pensée de l'éternité, cette conscience, cette voix de la conscience. Alors, elle a été souvent étouffée, mais pour nous qui croyons, nous qui sommes maintenant son peuple, eh bien, nous avons suivi ce mécanisme interne, cette voix intérieure, et nous avons obéi à la parole de Dieu. Alors, on se rend compte que Dieu nous a créés pour refléter sa gloire, pour être unis à Christ, et si nous voulons entrer dans le but de Dieu pour nous, il nous faut chercher à plaire à Dieu, et puis il nous faut chercher à l'adorer. On revient sur notre thème de l'adoration. Nous avons été créés pour lui, nous avons été créés pour l'adorer. Il y a un chant qu'on prend parfois, je ne sais pas si on l'a chanté ici, qui dit « Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom ». C'est le but de Dieu pour notre existence. Alors voilà, ça c'était le premier point, c'est tous les hommes ont besoin d'adorer, parce qu'en eux, il y a ce mécanisme, ce désir, ou cette pensée de l'éternité qui les font se tourner vers le Père. Alors, malheureusement, certains le mettent de côté, mais voilà. Un deuxième point, quel est l'objet de notre adoration? Alors, Josué, chapitre 24, verset 2, les hommes ont cherché à adorer, mais ils se sont souvent tournés vers les idoles. Josué, chapitre 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » Ils servaient d'autres dieux. Suite au péché d'Adam et Ève, les êtres humains ont commencé à se détourner de Dieu. Et ils ont cherché à adorer. Il y avait toujours ce besoin d'adorer, mais comme ils n'adoraient plus Dieu, ils se sont fait des faux dieux, des idoles. La Bible appelle ça comme ça. Il fallait absolument qu'ils adorent quelque chose. Et comme ils ne voulaient pas croire en Dieu, alors ils ont créé des pierres, enfin ils ont fait des idoles de pierre ou de bois, et ils ont dit c'est ça notre Dieu, c'est ça qu'on va adorer. Pourquoi ? Parce que en chaque être humain, il y a une soif spirituelle. Et quelque part, on l'a vu, tous les êtres humains ont soif d'adorer quelque chose. Soit ils adorent le Dieu vrai, le vivant et vrai, mais soit ils vont adorer n'importe quoi. Des faux dieux, la pierre. Les hommes, donc, ont commencé à fabriquer des multitudes et des multitudes de faux dieux. Ils leur ont donné des noms différents. On a parlé de Térak. Vous savez qui était Térak ? Le père d'Abraham. Vous connaissez sa vie? Il avait connu le Dieu de la révélation. Par génération, c'était dans la descendance d'Adam. Il avait donc entendu parler de Dieu. Mais vous avez remarqué ce qui est dit là? Il servait d'autres dieux. Et il allait entraîner Abraham dans cette affaire. Heureusement que Dieu s'est révélé à Abraham, et c'est finalement Abraham qui a ramené Térak à quitter Ur pour le déraciner de ses idoles. Parce qu'à Ur en Chaldée, avec l'histoire, on sait qu'il y avait déjà plus de 500 dieux qui étaient adorés. Déjà à l'époque, la lune, les étoiles, toutes sortes de... le soleil, enfin, toutes sortes de faux dieux, de la pluie, de la météorologie, tout ce que vous voulez. Et dans l'Ancien Testament, si on regarde un petit peu, rapidement, on va se rendre compte qu'il y a les idoles pullulent. Bien que l'homme a connu qui est le vrai Dieu, on voit que même au sein du peuple de Dieu, on va s'en rendre compte, il y a des idoles. Il y a des idoles au sein du peuple de Dieu. Par exemple, quand quand le peuple est sorti d'Égypte. Peu de temps après que Moïse est parti sur la montagne, ils se sont inquiétés. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Fais-nous un dieu, ils disent, Exode 32. Fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Le désir dans l'être humain qu'il y a d'adorer quelque chose. Fais-nous un dieu, c'était le cri de leur cœur. Ils ne voyaient plus Moïse, comme si Moïse était Dieu finalement, et alors que Dieu est invisible. Mais ils avaient besoin d'avoir une représentation. Or, Dieu a dit, tu ne feras pas d'image, de représentation, pas d'idole, pas de pierre en forme de Dieu, non. Mais les hommes ont besoin de visualiser. Alors après, un peu plus loin, vous retrouvez les téraphim, qui étaient des statuettes de dieux domestiques que les gens avaient dans leur maison. Oh, ça prenait pas trop de place, c'était peut-être dans un placard, mais il y avait un faux dieu à la maison quand même. Et ça se trouve, par exemple, dans la maison de Michal. Dans la maison de Michal, par exemple, la femme de David, quand David a dû fuir pour sauver sa vie, ben, il y avait un téraphim quand même dans la maison, hein. Un faux dieu. Et elle l'a mis dans le lit en faisant croire que c'était David. On le retrouve chez Michal, on le retrouve chez Rachel, qui avait pris en partant les téraphim, un téraphim de son père. Donc vous voyez que bien que le peuple y connaissait Dieu, il côtoyait quand même un certain nombre d'idoles qui n'étaient pas la gloire de Dieu, parce que Dieu a toujours dénoncé ces choses. On voit que le cœur humain, il y a un problème avec ça. Et nous qui sommes chrétiens, veillons à ne pas avoir à la maison des idoles ou des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, hein, parce que malheureusement, ça nous contamine spirituellement. Le veau d'or, les téraphim, Baal, qui était le faux dieu de la foudre, qui était le maître des dieux et dont le culte s'accompagnait souvent de prostitution sacrée, donc c'était un dieu de débauche. Vous aviez Astarté, l'épouse du dieu suprême des Cananéens, représentée par un pieu de bois sacré. Les gens se prosternaient là-devant et adoraient cette fausse déesse. Déesse de la fécondité, de l'amour et de la guerre. C'est Gédéon qui a reçu l'appel à servir Dieu, et vous savez que dans la maison de son père, c'était un croyant cet homme, croyait en l'Éternel, et bien il y avait quand même dans la maison, enfin dans le jardin si on peut dire, il y avait un pieu sacré à la gloire d'Astarté, et puis il y avait un Baal, et puis Gédéon, la première chose qu'il a faite quand il a vraiment pris conscience que Dieu l'appelait à le servir, il a commencé par faire du nettoyage. Mais vous voyez qu'il y avait une contamination quand même permanente des idoles, même au sein du peuple de Dieu. Alors si déjà c'était au sein du peuple de Dieu, imaginez, à l'extérieur, il n'y avait que ça, de l'idolâtrie partout. Moloch, un des pires dieux, puisque Moloch signifie celui qui règne, dieu des Ammonites, qui exigeait, lui, des sacrifices d'enfants pour assouvir ses passions. Et là encore, je dirais que parmi le peuple de Dieu, des rois de Juda, deux notamment, Akaz et Manassé, qui étaient dans la lignée des rois de Juda, donc des rois de la bonne lignée, si on peut dire, eh bien, ces deux-là ont livré par le feu leurs propres enfants à ce faux Dieu, tout en ayant la révélation du Dieu unique. Donc on voit que c'est catastrophique, que l'idolâtrie a toujours perduré à côté de la vérité, et c'est pour ça que les prophètes, ils avaient beaucoup de travail pour ramener le peuple dans les voies du Seigneur, parce qu'il avait toujours tendance à s'écarter. Alors en examinant ces choses, on se rend compte qu'il y avait un syncrétisme qui était en train de s'installer, les faux dieux à côté du vrai Dieu. Et à un moment donné, arrivent les prophètes, notamment, je vous donne l'exemple d'Élie, Élie qui arrive à une époque où il y avait le service des faux dieux Baal et Astarté d'un côté, et puis le vrai Dieu de l'autre, et Élie dit au peuple, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si Baal est le vrai Dieu, servez-le lui seul, mais si c'est Dieu qui est le vrai Dieu, quittez vos Baals. Vous voyez que le peuple n'arrivait pas, il était tout le temps partagé entre les idoles et le vrai Dieu. Mais Dieu ne veut pas de compromis. Alors, l'objet de notre adoration, donc on a vu l'adoration des idoles. Les hommes se sont fait des idoles. toujours dans le deuxième point, l'objet de notre adoration, le détournement de l'adoration. Romains chapitre 1, verset 24. Romains chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Remarquez qu'il est dit, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Donc il y a eu un détournement de l'adoration qui revenait à Dieu, le Créateur. Ben, cette adoration a été détournée vers les hommes. Qu'est-ce que les gens adorent aujourd'hui ? Il suffit de, pour répondre à cette question, il suffit de se poser la question, de dire qu'est-ce qui a la première place dans notre vie ? Qu'est-ce qui a le plus d'importance ? Et on va suivre le trajet de là où on passe notre temps, là où on met notre affection, là où on met notre énergie, là où on est prêt à mettre de l'argent, qu'est-ce qui prend la première place dans notre existence ? L'objet de l'adoration, si vous regardez le monde autour de nous, elle est multiple. Alors, c'est vrai qu'on voit plus ou presque plus des idoles de pierre, des faux dieux du genre Moloch et tout ça. Mais, dans nos sociétés, en tout cas en Europe, il y a toutes sortes de faux dieux qui ont d'autres noms. Par exemple, pour certains, son dieu, ça va être... Sa passion, ça va être sa voiture. Il va y passer tout son temps, il va vouloir qu'elle soit toujours la plus belle, il va y mettre de l'argent, il va passer du temps à la faire briller. Nous, on a un voisin comme ça. Le samedi, il faut toujours qu'il soit sur sa voiture, il faut que ça soit la plus belle. Il y passe du temps, il y passe des heures, et ça sert à quoi ? À rien. Mais pour lui, c'est important. Voilà, c'est quelque chose qui compte. Pour d'autres, ça va être leur ordinateur. Toujours connecté à leur ordinateur, Internet. Au lieu de passer du temps avec leur famille, leurs enfants, leur épouse, ils sont connectés. Et ça devient un dieu, ça devient une idole dans leur vie. Ils en sont prisonniers, ils sont liés avec ça, et ils doivent rendre un culte. Alors, c'est pas un culte comme nous on fait, mais c'est un culte à leur faux dieu. Autrefois, ils se prosternaient, et bien aujourd'hui, les gens, ils sont presque en osmose avec leur ordinateur. Pour d'autres, leur Dieu, c'est l'argent. Comme Jésus le dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mais Mammon, c'est un Dieu. C'est un faux Dieu. C'est le Dieu de l'argent, Mammon, qui existe, qui est toujours là dans ce monde. L'argent qui est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et pourtant, c'est un maître. Et si on adore l'argent, si on voue sa vie à l'argent, il y en a qui l'ont fait, vous savez. On a entendu... dans cette terrible crise financière qui a frappé le monde entier, en même temps est apparu des éléments comme un homme qui avait fait beaucoup de fraudes au niveau de l'argent, et donc quelqu'un qui avait beaucoup misé sur lui. Quand ils ont découvert que c'était qu'ils n'avaient plus rien, ben, y a une personne quand même qui s'est donné la mort. Parce que pour lui, l'argent, c'était tout. C'était plus important que la vie, vous vous rendez compte ? Pour lui, c'était un véritable Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important entre l'argent et la vie ? La vie a quand même plus de prix que 1 million, 10 millions d'euros. Et pour lui, c'était l'argent qui avait plus de prix que sa propre vie. Voyez ? Donc, il a vraiment préféré se donner la mort plutôt que d'affronter les conséquences de sa folie. Il avait suivi un faux dieu, ce faux dieu s'est révélé l'avoir ruiné, eh bien, voilà, pour lui, c'était la mort, il n'y avait pas d'issue. Vous voyez, quand on suit des faux dieux, l'issue, c'est la mort. Tôt ou tard, c'est la fin de tout, on est séparé de Dieu pour l'éternité. D'autres, ils vont suivre d'autres faux dieux, comme le corps, ils veulent avoir toujours... plus de performance, de musculation, tous ces gens qui passent le dimanche matin, qui n'ont pas le temps pour Dieu, mais qui vont passer tous les dimanches matins à faire de la course, à s'entraîner, à être sportif. Et Ils vouent un culte à ces choses-là pour être toujours plus performants, mais la Bible dit que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière, et tout ce temps qu'ils ont passé à vouer comme culte au corps, bien cela ne sert à rien. Pour d'autres, ils vont vouer un véritable culte à la sexualité. La sexualité est bonne dans le cadre du mariage, mais elle a été détournée par Dieu, comme il est dit. Ça a été détourné, vous voyez. Et des gens adorent ces choses-là, tout ce qui est mauvais dans la sexualité, comme la pornographie, les relations sexuelles en dehors du mariage, la violence. Beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent ces choses à avoir des relations multiples, avec une autre, etc. Et ça fait beaucoup de dégâts. Mais c'est un véritable Dieu, ça, qui tient ces gens liés, et puis ces gens donc adorent. Ils adorent ces choses-là. J'ai connu un homme comme ça qui a été entraîné dans le monde de la nuit. C'est un homme, on va dire, équilibré, avec un travail, tout. Et suite à des circonstances, il a été attiré par une femme dans des endroits mauvais, de mauvaise fréquentation. Et puis on a vu cet homme décliner. On avait beau lui donner des conseils, mais vous savez, quand quelqu'un commence à suivre un faux Dieu, vous pouvez lui parler, mais il était obnubilé, et on l'a vu décliner, il a tout perdu, il est devenu, il n'avait même plus de sens moral, il n'avait plus rien, quoi. C'est triste de voir ce que ces dieux-là, ces faux dieux, ils font de leurs disciples maintenant, parce que ce sont des adorateurs, ils ont adoré ces choses-là, et ils sont perdus, ils ont vraiment besoin du Seigneur, de retrouver, voyez, la véritable adoration. L'adoration véritable, c'est prévu pour le Créateur. Ce n'est pas prévu pour les créatures, pour les faux dieux. Pour d'autres, les faux dieux, ça va être la musique. J'entendais ce témoignage d'un concert qui a eu lieu avec U2, un grand groupe de rock. Et les gens qui étaient là dans le concert étaient en communion avec le chanteur. Ils avaient les yeux fermés, les mains levées, on pourrait dire en adoration. En adoration. Ils adoraient la créature au lieu du Créateur. Hein? Ouais, parfois, dans l'expression, c'était véritablement leur culte. Ils rendaient leur culte. Peut-être ils ne le savent pas, vous voyez, ce n'est pas forcément conscient, mais nous qui sommes conscients que derrière ces choses, il y a des choses spirituelles, ils sont en train d'adorer, mais d'adorer la créature au lieu du Créateur. Le sport, pour d'autres, le sport, des sociologues comme... Une dame qui s'appelle Hervieux Léger a analysé les grands rassemblements sportifs qui sont les coupes de football. Et elle a conclu que les gens, autrefois, ils allaient à la messe et ils y trouvaient une certaine communion. Aujourd'hui, ils vont dans les stades de foot pour y trouver une communion. Une communion, c'est les mots qu'elle emploie. C'est pour elle la nouvelle religion. La nouvelle religion du football. Autrefois, c'était la prière. Aujourd'hui, ce sont des cris de victoire pour leur équipe. Et ils soutiennent. Et ils sont motivés, ils sont prêts à payer un déplacement, hein, parce que s'il faut aller au Parc des Princes, ça fait quand même déjà le billet pour y aller, puis la nuit d'hôtel, puis le billet pour aller assister au match, donc ça fait des budgets. Ils sont prêts à y mettre du temps, ils sont prêts à y mettre de l'argent, ils sont prêts à s'investir émotionnellement. Donc c'est là tout un aspect, disent les sociologues, de la religion. Et puis il y a un autre aspect qui est terrible, ce sont les gens qui adorent le diable. C'est un autre aspect de l'adoration, la mauvaise adoration que l'on voit même aujourd'hui en France. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, mais par contre il y en a qui croient au diable et qui font des messes noires ou qui cherchent dans l'occultisme, la nécromancie, à avoir contact avec l'au-delà. Et Satan, et j'ai remarqué ceci, Satan a soif d'être adoré. Hein, on le voit avec Jésus. Et Satan a dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, le désir de Satan, et ce qu'il a fait chuter, c'est qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu, c'est-à-dire recevoir l'adoration. Il n'y a que Dieu qui peut être adoré. Satan a voulu être adoré, et à partir de là, il a été précipité en bas. Mais il a toujours soif d'être adoré. Il ne peut être adoré à l'égal de Dieu, mais au moins il cherche quand même à recevoir la gloire et l'honneur des hommes. On a des témoignages comme ça de chanteurs, de musiciens célèbres qui ont reçu comme une sorte d'inspiration. On peut parler d'inspiration mais diabolique. Ils l'ont reçu dans une messe noire ou dans des incantations, et puis tout d'un coup le texte d'une chanson, la musique, inspiration. De même que quand l'Esprit saisit certains musiciens, certains chanteurs, ils peuvent recevoir aussi par le Saint-Esprit une inspiration, mais là une inspiration divine. Ben, le diable, lui, il cherche à imiter Dieu toujours, et vous vous rendrez compte que ces gens-là qui ont reçu ces textes et tout ça, ça a fait des succès extraordinaires, des ventes et des ventes de disques. Pourquoi ? Parce que le diable a soif d'être adoré et il cherche des adorateurs. Et tous ces gens qui vont au concert et qui adorent cette musique, derrière ils adorent l'idole, c'est-à-dire le diable, Satan, ces démons qui sont là derrière ces idoles-là. Alors on a dit toujours dans la deuxième partie, l'objet de notre adoration, l'adoration des idoles, premièrement. Deuxièmement, le détournement de l'adoration. Troisièmement, l'adoration des Athéniens dans Actes 17. Regardez ceci. Actes 17, 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors, les Athéniens n'avaient pas un problème avec l'adoration, parce qu'ils adoraient, mais ils avaient un problème avec l'objet de leur adoration. Ils adoraient les mauvaises personnes ou les mauvais dieux. Des auteurs comme Pausanias et Sophocle considéraient que les Athéniens, c'était les plus religieux de tous les Grecs. Et à Athènes, c'est dans cette ville-là de Grèce qu'il y avait le plus de jours fériés dédiés à des dieux. Donc c'était vraiment une ville de concentration de dieux. Paul montre ici que l'homme est par nature religieux. Il dit, voilà, dans votre ville, je vois que vous êtes extrêmement religieux. C'est un auteur qui s'appelle Mark Twain qui dit que l'homme est un animal religieux. Alors, on a été créé pour adorer. Et les gens ont adoré, donc, des statues, des faux dieux, etc. Le problème des Athéniens, c'est qu'ils adorent tout et n'importe quoi. Ils avaient les dieux syriens, les dieux phéniciens, les dieux phrygiens, égyptiens, les dieux grecs, bien sûr, les dieux romains. Et il y avait un de ces mélanges au niveau des religions incroyables. Et par peur d'oublier un dieu, ils avaient mis un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Vous voyez ? Par crainte que celui-là il soit encore supérieur à tous les autres et puis qu'il ne l'avait pas honoré sans le savoir. Donc Paul va leur dire, ce dieu inconnu, bien moi je viens vous révéler qui c'est celui qui a créé toutes choses, il est au-dessus de tout, et c'est lui seul que vous devez adorer. Il est le seul digne de notre adoration. En fait, il a voulu ramener les Athéniens dans la véritable adoration. N'adorez plus, dit Paul, les créatures, ces faux dieux, mais adorer le Dieu vivant et vrai. Ça, c'était donc cette deuxième partie, l'objet de notre adoration. Troisième partie, je voulais terminer avec cet exemple de l'adoration de Caïn dans le Nouveau Testament. L'adoration dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 4. L'adoration de Caïn, voilà le type même de l'adoration terrestre, humaine, charnelle. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On peut voir trois choses. Premièrement, le nom d'abord de Caïn, qui signifie possession, artisan, forgeron. La racine de Caïn désigne un mot qui signifie lance, ce qui est creux, vain, trompeur. Et dans l'Ancien Testament, le nom est toujours révélateur d'une personnalité. Donc, Caïn, c'est celui qui est attaché aux choses de la terre. Abel, au contraire, signifie ce qui monte, vapeur, ce qui est spirituel donc pour nous. Donc déjà rien que dans le nom vous avez une différence. Ensuite, deuxième point, concernant l'offrande. Remarquez bien que tous les deux ils veulent adorer, que ce soit Caïn ou Abel, ils veulent adorer Dieu. C'est le même but. Mais l'un va offrir le fruit de son travail, de ses œuvres. Autrement dit, il dit à Dieu, regarde, Oh Dieu, tout ce que j'ai accompli, c'est comme ça qu'il va adorer. Il veut montrer à Dieu sa gloire. Et la Bible dit que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur son offrande. C'est pas comme ça qu'on adore Dieu. Et Jean, dans la première épître de Jean, nous révèle que les œuvres de Caïn, il dit les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Ça n'apparaît pas ici dans le texte, mais les œuvres de Caïn étaient mauvaises et Dieu l'a vu. Et le mot mauvais, c'est ponéros, moralement et spirituellement mauvais, se délectant de perversité, inspiré par Satan. Voilà ce que ça signifie, ponéros. Donc, Dieu a considéré ce sacrifice comme détestable, odieux, insultant et blasphématoire. Alors, d'un point de vue extérieur, on aurait vu, nous, Caïn, Abel, on aurait dit, mais ils adorent. Parce que de l'extérieur, on ne voit pas le cœur. Et chacun avait choisi sa forme. L'un, c'était les fruits de la terre, l'autre, c'était un agneau. Mais on pourrait dire, tous les deux, ils ont fait monter vers Dieu quelque chose, leur offrande, leur sacrifice d'action de grâce. Mais d'un point de vue de la réalité spirituelle, eh bien, il y en a un qui était religieux, formaliste. Formaliste, c'est Caïn. Il misait sur l'extérieur, sur l'apparence. Il avait l'apparence d'un adorateur. On aurait pu dire, oh là là, quelle prière, mes amis. Il y a des fois des gens, ils vous font des prières à faire décoller tout le monde. Mais Dieu regarde au cœur aussi. Et si cette personne n'est pas en règle avec Dieu, vous savez, cette prière, elle ne vaut rien du tout. Donc, Dieu condamne ici le formalisme religieux qui mise sur l'apparence. Et au contraire, il approuve, parce qu'il y en a un qui a approuvé. Hein. Il regarde, il jette un regard favorable sur l'adoration d'Abel. Donc, Dieu met en avant l'aspect spirituel, celui qui offre le premier-né du troupeau en sacrifice, mais surtout, on le voit dans le Nouveau Testament, parce qu'il a la foi. Il y a quelque chose dans son cœur. Mais il a eu l'intuition, voyez, Abel, d'offrir un sacrifice d'animal. Et ça va être par les sacrifices d'animaux qu'on s'approche de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Donc il a ressenti quelque chose de la part de Dieu au niveau du sacrifice sanglant. Et puis le troisième aspect dans la différence entre les deux frères, c'est leur attitude intérieure. Il est dit de Caïn qu'il était du malin, 1 Jean chapitre 3 verset 12, il était du malin, il était inspiré par le diable. Et il est dit dans Hébreux 11, 4, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dans l'un, il y avait l'inspiration du malin, dans l'autre, il y avait la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Et ça compte énormément pour Dieu, ce qu'il y a dans notre cœur quand nous adorons. Il y a vraiment une différence entre les deux. Quand nous adorons, Dieu n'écoute pas seulement nos paroles, les mots que nous pouvons prononcer, car nos paroles peuvent être passionnées, elles peuvent être justes sur le plan théologique, on peut faire des prières très bibliques, très belles. Et si notre cœur n'est pas en adéquation avec nos paroles, eh bien nos paroles sonnent faux aux oreilles de Dieu, et il n'agrée pas. Il dira comme à Caïn, je n'ai pas porté un regard favorable sur cette adoration. Donc l'adoration, on va dire, ce n'est pas juste une expression orale des mots, mais c'est un style de vie qui, à l'intérieur, doit refléter ce que nous disons à l'extérieur. Si nous aimons Dieu, nous ne devons pas avoir d'idole dans notre cœur, ni d'orgueil. L'adoration, donc, c'est tous les jours, par une vie qui honore Dieu. L'adoration engage toute ma personne. Vous connaissez ce verset qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Mais le mot qui vient en premier, c'est « de tout ton cœur ». C'est comme si pour Dieu, ce qui compte le plus, c'est l'adoration du cœur. Peut-être même si notre adoration est maladroite avec nos mots, c'est pas bien grave. Mais si elle vient d'un cœur sincère, finalement, c'est celle-là que Dieu va agréer. Alors que l'autre va faire une belle... Vous savez, cette prière dans le temple entre l'homme qui est religieux, qui fait une belle prière, et puis l'autre qui dit « Oh, sois apaisé vers moi ». Mais il avait un cœur sincère, cet homme, ce publicain. Et l'autre, il est religieux, il a beau faire une belle prière, elle n'est pas agréée de Dieu. Parce qu'à l'intérieur, il n'est pas droit. Un auteur a dit « L'adoration, c'est ce que vous faites et c'est qui vous êtes ». L'adoration, donc, implique toute notre existence, toute notre vie. Nous voulons avoir une vie d'adorateur. En conclusion, on a tous besoin d'adorer, tous les êtres humains, c'est le même cas pour chacun, et finalement, on se rend compte que tout le monde adore quelqu'un ou quelque chose. qu'ils le sachent ou pas, ils adorent. L'auteur Louis Giglio qui a dit ceci: tout le monde a un autel et chaque autel a son trône. Tout le monde a un autel. Si ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Mais tout le monde adore quelque chose. La question n'est pas de savoir si nous adorons, mais est-ce que nous adorons la bonne personne, c'est-à-dire Dieu, et est-ce que nous adorons de la bonne manière, c'est-à-dire en esprit, en vérité? Parce qu'on voit que là, Caïn et Abel, ils voulaient adorer Dieu, un le fait de la bonne manière et l'autre le fait de la mauvaise manière. Donc encore faut-il non seulement savoir qui nous devons adorer, mais comment nous devons l'adorer pour lui plaire. C'est facile de tomber dans le formalisme religieux, dans l'apparence de la piété, mais ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur sincère. Alors est-ce que nous voulons l'aimer passionnément? Est-ce que le Seigneur a vraiment la première place dans notre vie? Est-ce que nous voulons le suivre et le servir? Est-ce que nous l'aimons par-dessus toute chose? Il ne faut pas avoir un autre Dieu. Vous savez, ce que Dieu a souvent reproché à son peuple, c'est qu'il était adultère spirituellement. Il suivait Dieu, mais il aimait aussi d'autres dieux. L'adultère est condamné dans la parole. Si je dis à ma femme « je t'aime » et que dans mon cœur j'aime une autre femme, je suis adultère. Et cet amour est faux. Et Dieu, lui, voit ce qu'il y a dans notre cœur et on ne peut pas le tromper. Ainsi, Dieu voit nos pensées et on dit « Seigneur, je t'aime, tu vois combien je t'aime, je t'adore. » Et en même temps, dans notre vie, s'il y a quelque chose qui prime sur Dieu, mais Dieu ne veut pas entendre ces paroles d'amour, elles sont fausses et ça le blesse. Et imaginez une femme qui est, ou un homme qui est trompé par quelqu'un qui lui dit je t'aime, et en réalité cette personne trompe avec une autre personne. Ben, c'est, pour la personne trompée, c'est offusquant, c'est choquant, c'est grave. Ben, Dieu est offusqué, il est choqué de voir un peuple qui l'adore du bout des lèvres, mais dont le cœur est éloigné. C'est comme ça qu'il est dit dans l'Ancien Testament. Vous m'honorez de vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Hein. Alors, adorons le Seigneur, frères et sœurs, de tout notre cœur, de toute notre pensée, et servons-le lui seul, qu'il n'y ait pas d'idole, pas de choses qui viennent entre nous et Dieu, qui viennent prendre la place de Dieu, mais qu'il soit toujours vraiment à la première place. Merci encore pour ta parole. Nous voulons être de ceux qui t'adorent comme tu le désires. Nous voyons combien dans ce monde il y a cette soif d'adoration, mais qui a été détournée par Satan, qui a orienté cette adoration vers les choses de la terre, vers les faux dieux de ce monde, qui a détourné l'adoration du Créateur vers les créatures. Et nous ne voulons pas tomber dans ces pièges. Nous savons, Seigneur, que le diable désire l'adoration, qu'il la recherche, qu'il y soupire. Mais ce soir, nous voulons te rendre la gloire à toi seul et rechercher tout ce qui t'honore, tout ce qui te plaît, vivre conformément à ta parole. Et notre désir, c'est te servir de plus en plus, t'adorer de mieux en mieux et faire toujours ta volonté. Merci de garder chacun dans ta paix, dans notre retour, et que ton Saint-Nom soit béni. Amen.